Cette semaine à la vie en BD, Jardin des complexes de Jimmy Beaulieu. Bon mardi à toutes et tous. Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour parler bande dessinée, pour parler 9e art. Et ben, il y a des semaines où on se dit qu'on va consacrer un petit peu plus de temps à une BD, à un livre. On le fait de plus en plus régulièrement, évidemment, à l'émission pour ceux et celles qui nous écoutent avec une vive assiduité ou qui réécoutent les éléments en balado sur lavieenbd.com. Et ben, notamment, du côté Nouvelle Adresse, on a parlé il y a quelques semaines d'une de leurs publications du printemps avec Bac et Tant pis pour les likes. Et on reste un peu avec cette maison d'édition et un nouveau titre qui est arrivé également dans la même foulée. Donc, attends pour le Salon du livre, le Festival Québec BD à Québec. Attends également pour le Festival BD de Montréal. Alors, il s'agit de Jardin des complexes de Jimmy Beaulieu. Je le disais, c'est chez Nouvelle Adresse. Et Jimmy Beaulieu est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Raymond Poirier.
Alors, évidemment, Jimmy, j'ai l'impression, en fait, la dernière fois qu'on s'est parlé pour un album, si on peut dire, ça remonte à 2011 avec Rôle de composition. Et évidemment, tu n'es pas disparu de l'écosystème de ces 7, 8, 10 dernières années. Tu as été quand même très actif. On t'a vu dans des collectifs, dans des publications, des projets de résidence. Tu as fait de l'auto-édition aussi. Tu donnes des cours de bande dessinée et le reste. Et là, tu nous reviens 2023 avec un recueil, avec des récits, des histoires qui s'échelonnent un peu entre 2015 et 2022 en termes de date de publication pour celles, à tout le moins, qui ont été publiées dans d'autres médiums. J'imagine que la première question à se poser avant de parler de la thématique comme telle, de l'ouvrage et de l'ouvrage comme tel, c'est justement qu'est-ce qui a fait qu'en 7 ans, après 7-10 ans, tu décides de revenir un peu dans un format album. Est-ce que c'est parce que justement tu avais l'impression que tu avais accumulé assez de production et qu'il y avait peut-être un sens, une direction, une ligne à en faire émerger dans le cadre d'un recueil comme tel?
Ben, c'est exactement ça. C'est m'emmener. J'ai toujours travaillé un peu comme ça. J'ai toujours travaillé à colliger des histoires que je faisais qui étaient semi-autonomes, disons, semi-détachées. Puis après ça, je les assemblais ensemble comme pour faire comédie sentimentale pornographique, pour faire le moral des troupes qui est devenu une aventure, pour faire pour la composition. J'ai vraiment fonctionné comme ça, sauf qu'à chaque fois, j'étais un peu plus strict sur les mêmes personnages, la structure, que ça ait l'air d'une histoire, mais... la manière que les choses m'arrivent, me viennent, c'est plus sous la forme de Jardin des complexes. Cette fois-là, j'ai décidé de laisser le fait qu'on change de personnage puis que je laisse un peu au lecteur le soin de faire les raccords puis de recréer l'histoire globale, tu sais, le tout. C'est un peu comme en musique, les albums concept, là, c'est-à-dire qu'il y a un thème, il y a une cohésion, mais c'est pas de manière traditionnelle, disons. Comme j'essayais de faire avec mes autres livres, mais je trouve que je les dénaturais un petit peu. Fait que c'était vraiment comme je dénaturais, disons, le travail de la manière qui arrive pour rendre très mâché ça un petit peu pour les lecteurs, tandis que là, je suis allé plus brut. Ça donne un résultat qui, je pense, est intéressant puis qui m'étonne dans sa manière d'être compris par le monde. Je pensais que ça allait être plus comme « Ah non, pas un autre style de recueil d'histoire courte. Quand est-ce que tu vas nous faire un beau gros livre qu'elle donne Noël? » En tout cas, ça explique un peu les questionnements qui ont fait que ça a pris 7 ans de m'emmener. J'ai dit comme non, les histoires sortent comme ça. Des fois, c'est de la fiction totale. Des fois, c'est de la fiction, c'est-à-dire d'autobiographie un petit peu comme masquée un peu. Puis des fois, c'est d'autobiographie très claire. Puis ça fait toute partie de ce que je raconte. T'sais. Ça fait toute partie. C'est comme une conversation. T'sais. Des fois, on part sur des tangentes, puis on fait des métaphores, puis on n'ose pas dire des trucs. Puis... Fait que c'est ça. Donc, voilà, pour répondre à ta question, c'est juste de décider d'assumer que ce serait comme ça, qui a peut-être pris 7 ans. Puis aussi, ben, c'est comme tu disais, je suis très, très actif à dans divers niveaux. Puis celui-là, je ne sais pas, je voulais qu'il soit réfléchi. Je voulais pas qu'il soit... Je voulais aussi avoir une vraie fin. T'sais, des fois, quand tu as un livre que pas vraiment de fin ou quoi, ça fait un peu ramasser. Mais là, lui, j'attendais d'avoir une vraie fucking bonne fin, tu sais, pour il ramasse tout le bouquin. Puis là, ben, quand je l'ai eu, j'ai dit, OK, c'est le temps, on le fait.
Parce que j'ai l'impression, en lisant, en entendant un peu d'ailleurs dans cette réponse-là, qu'il y a comme trois démarches qui se côtoient un peu d'une certaine façon. Donc, il y a les histoires comme telles. J'imagine, dans l'énumération que j'en ai faite, qu'il y a beaucoup plus de récits, beaucoup plus d'illustrations, beaucoup plus de productions ces dernières années, évidemment, que ce qu'on retrouve là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une première production, évidemment, large. Après ça, il y a eu une sélection. Dans le fond, il y a des éléments, j'imagine, qui, à un moment donné, ont fini par s'imposer. Donc, d'essayer de les regrouper, de les réunir, de les organiser. Un peu comme tu dis, on organise les pistes d'un album, on choisit les tunes dans nos compositions et le reste. Puis après ça, le retravail pour quand même s'assurer que ça soit quand même assez cohésif. J'avais lu à quelque part que tu avais pratiquement refait le tiers des planches, redessinées, réorganisées aussi.
Oui, non, c'est assez important ce que je fais vers la fin aussi. Puis il y a des trous à boucher, il y a des trucs... Justement, en colligeant des choses que tu as faites de manière un peu jardinière, disons. Je laisse pousser ça un peu comme ça veut pousser. Puis là, j'organise, puis je fais des boutures, tout ça. Ben, des fois, tu te rends compte que il manque pour que ce moment-là ait de la valeur. Il faut que j'explore un petit peu plus ça. Il faut que j'en dise un peu plus sur ma relation avec la perte des proches, des choses comme ça, pour que la fin ait un petit peu... un peu toute sa valeur, ben là, il manque des trucs un peu directs là-dessus avant. Fait que là, ben, je vais boucher des trous comme ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, ça, je l'ai dit, c'est un peu une technique de jardinier. C'est un peu. Il y en a qui travaillent en architecte, il y en a qui travaillent en jardinier. Moi, je suis très clairement du côté des jardiniers, c'est-à-dire que je suis très, très proche de la structure, mais j'y vais en aval, tu sais, après que les histoires soient sorties. Non?
Puis, dans le fond, est-ce qu'à un moment donné, dans le fond, tu dis, OK, là, il commence à avoir quelque chose qui émerge de ce côté-là ou certaines histoires où tu décides justement d'orienter parce que tu vois une trame émerger dans l'ensemble de ce que tu produis puis que tu décides de pousser un petit peu là-dessus ou on décide d'y aller jusqu'au bout un peu de cette démarche en disant, mais j'assume ce qui vient et je veux pas justement retomber, comme tu dis, d'entrée de jeu, dans le fond, dans un filtre, dans un a priori qui va t'amener vers une piste ou t'obliger aller vers une piste, puis qu'on va rester quand même jusqu'au bout dans l'aspect spontané de la création, si on peut dire.
Ben, tu vois, d'habitude, c'est deux tiers, je décide, puis je me sers d'un tiers qui est un peu spontané, mais cette fois-ci, j'ai fait l'inverse. J'ai fait, disons, deux tiers spontanés, puis un tiers beaucoup plus dirigé. En tout cas, c'est un pourcentage complètement bidon, mais je pense qu'il est assez juste. Je pense que d'habitude, c'est ça, j'organisais plus un peu plus cruellement. En tout cas, je pense que j'abîmais un petit peu un truc que j'ai laissé intact là. Puis je pense que ce côté-là finalement est plus apprécié que ce à quoi je m'attendais.
Ça devient en fait, parce qu'après ça, là, on tombe dans la partie de l'agencement comme tel, dans la mesure où une fois que tu te dis, bon, OK, voici mon corpus d'histoire de départ, ben, comment je les organise, comment je crée ces résonances-là. Évidemment, tu disais, il faut avoir une fin, mais il faut que ça soit quelque chose de cohésif. Puis tu donnes un peu, j'ai envie de dire, un côté un peu roller coaster où on a des histoires qui sont peut-être un peu plus légères, un peu plus coquines, d'autres qui sont plus intimes, d'autres qui sont franchement plus intenses d'un point de vue émotif, même si c'est pas toujours des grands moments qu'on vit non plus. Donc, j'imagine qu'il y a tout un équilibre à faire pour avoir un vrai parcours, dans le fond, à travers tout ça.
Oui, ben, en tout cas, ça m'émeut ce que tu dis. Puis, mais c'est ça, je pense que justement, ça fait partie de la vie, ça fait partie de ce que je veux dire, ça fait partie de ce que je suis, puis ça fait partie de la vie de la personne qui me lit la plupart du temps. Puis si je fais juste parler de la gravité, ça va être lourdeau. Si je fais juste parler de la légèreté, ça va être comme dérisoire un peu. Mais ça... l'un sans l'autre, en tout cas, on sait bien, ça, c'est triste, c'est poche. Puis, tu sais, ça, je pense que je le fais d'une manière assez particulière dans un cas comme dans l'autre, tu sais, puis justement, de bifurquer, tu sais, mettons, dans une scène, tu sais, un petit peu, je sais pas, grave, contemplative, vers la fin, le char n'arrête pas de faire un... tu sais, il y a comme un bruit dans le char, tu sais, puis pour moi, ben c'est ça, c'est un peu la vie, là. Quand on vit des trucs bien solennels, il y a toujours... une joke de pète, là. Il y a toujours un truc qui nous ramène un petit peu au côté dérisoire, puis je sais pas, je trouve ça assez fécond à explorer ce contraste-là. Puis aussi, c'est, ben, Tu l'as dit, la sélection est assez tight parce qu'il y a au moins la moitié du livre qui est coupé, qui n'est pas dedans. T'sais. Je pourrais sortir un autre livre demain matin d'histoire qui aurait pu être dans Jardin des Complexes, mais que le set de DJ de cette quinzaine d'histoires-là est vraiment très précis. Puis c'est juste une de plus, je pense, ça se serait écroulé. Une de moins, ça aurait été trop pauvre. Là, c'est vraiment. Renaud Plante et moi, on s'est beaucoup. Concerté, mais tu sais, j'ai un autre montage d'à peu près 200 pages de b-side, disons, de choses qui sont pas dedans, justement, pour respecter ces thèmes-là. Puis c'était vraiment pour donner tout ça pour donner son poids au moment de fin. Là.
Et puis j'ai l'impression, puis si on reste un peu dans le descriptif général avant de plonger, dans le fond, d'un point de vue narratif, évidemment, ça reste à voir. Il y a une cohérence thématique, j'aurais envie de dire. En fait, on centre beaucoup sur, j'ai l'impression, des moments charnières dans le couple. On y va assez parapluie, assez large. Puis après ça, bien, évidemment, avec l'accumulation, c'est là que l'impact aussi émotif vient là avec le roller coaster. Mais d'un point de vue stylistique, tu n'as pas de carcan non plus particulier. Donc, on va vraiment d'un style à l'autre, d'un style visuel. Puis des fois, c'est assez carré. Je donne un exemple juste entre les trois premières du début. Dans le fond, tu commences en bichromie, noir et bleu, un style intimiste. On reste un peu dans l'intimisme, on retourne un peu dans une approche un peu croquis, comme justement dans tes non-aventures et le reste. Après ça, oups, ça tranche, puis on se retrouve un peu avec une esthétique années 70, presque dans les couleurs, avec une scène d'amour extraterrestre. Puis après ça, oups, on embarque vers d'autres éléments. Donc, d'histoire en histoire, on est quand même happé par la couleur, dans le fond, puis l'intérêt visuel aussi, dans le fond, aurait pu créer une césure. Et j'imagine que ça devenait difficile aussi de pas justement que ça crée une césure, que ça a l'air d'une pizza, mais d'avoir quand même quelque chose d'assez fort d'un point de vue narratif pour que ça soit cohérent, que ça soit cohésif.
Oui, ben c'est ça. Ben c'est, en tout cas, premièrement, c'est le fun d'être lu par toi. je pense que je te l'ai déjà dit, mais tu lis attentivement, t'as l'air assez poreux à ce qu'on met dans nos bouquins. C'est chouette. En tout cas, tu glisses pas sur la surface, puis je veux te le dire, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Deuxièmement, ben, je pense pas que la cohésion graphique d'un bout à l'autre soit la seule manière d'avoir une cohérence de livre. T'sais. C'est une manière, mais après ça, moi, comme justement le thème est tellement comme net, clair, que je peux me permettre d'être aventureux dans le reste. T'sais, je suis comme ça, j'aime ça explorer des techniques de dessin. J'ai un plaisir fou à faire ça. Puis en même temps, je pense qu'il y a certaines histoires qui ne pourraient pas être autrement. T'sais, la première, elle a vraiment comme son sens en bichromie avec le bleu. On sent la nuit, on sent l'hiver, on sent le scintillement de la neige qui tombe, le côté brillant. Puis l'autre, après ça, qui parle plus de jours, de pluie, tout ça, il y a une nervosité. Fait que le crayon, le stylo à billes avec lequel j'ai fait la deuxième, la suite, disons, de ça. Tu sais, dans ma tête, il y a 5 ans, je l'aurais redessiné dans le style de la première. Mais aujourd'hui, je dis, pourquoi? Tu sais, elle a tout ce qu'il faut, tout passe, toute l'atmosphère est là, on sent l'affection, la curiosité, puis l'immaturité des deux personnages, comme ça passe. Puis, c'est deux modes de lecture différents aussi. Tu sais, quand on lit, pour moi, quand on lit du noir et blanc, on plonge dans la page, puis quand on lit de la couleur, on est plus en rapport esthétique, c'est plus projeté vers nous. Je fais des gestes avec mes mains qu'on n'entendra pas à la radio. Mais c'est ça, la couleur, c'est projeté vers notre œil. Fait que c'est plus, disons, un spectacle, la couleur. Puis le noir et blanc, ça se prête très bien à l'intime. Puis la micro, c'est comme juste un milieu, c'est-à-dire que on peut faire des trucs où on plonge, on est en intimité, mais il y a ces jeux de lumière-là et d'atmosphère que j'adore. On ne sacrifie pas l'intimité pour un petit peu d'esthétique. Là. C'est pour ça que c'est de plus en plus vers là que je m'en vais avec mon dessin.
Oui, puis en fait, puis entre ces deux premières histoires-là, d'ailleurs, parce que pour le lecteur, dans le fond, généralement, il y a beaucoup d'entrepages, dans le fond, des pleines pages très colorées, des fois avec des éléments dessinés, des fois simplement la page colorée, mais entre la première et la deuxième histoire, là, on y va vraiment avec un glissement sans préparation, dans le fond, on pourrait presque avoir l'impression qu'on est dans le même récit, qu'on est dans la même continuité, mais je trouve que comme il y a une cohésion d'ambiance, bien, le fait d'avoir placé l'intime dans la première histoire nocturne nous garde un peu dans cet esprit-là, dans la deuxième, qu'une page titre serait venue couper, à mon sens, donc ça fitait d'être en continuité, puis après ça, d'avoir une césure avant de tomber dans une autre ambiance qui nous amène un peu ailleurs aussi dans l'esprit du récit.
Oui, ben c'est très juste. Ça aussi, c'est les mêmes personnages entre les deux histoires. C'est comme c'est presque un truc en deux parties. C'est ça, je ne voulais pas vraiment le casser entre les deux. Mais après, c'est ça, une petite respiration pour nous préparer à jumper d'un univers à l'autre. Mais c'est ça, si on lit bien, comme tu sembles avoir fait, je pense, c'est très prétentieux à dire, je suis désolé. on va vraiment pouvoir voir ça comme un seul livre, là, puis que c'est... En tout cas, je pense qu'on a travaillé fort pour que ces césures-là ne cassent pas le big global, même si ça va surprendre rendu à troisième séquence, on peut dire ça plutôt qu'histoire si on veut garder la cohésion. Quand on a les deux mêmes personnages, puis on jump, OK, là, c'est comme on n'est plus deux ados à Beauport, à Courville, on est rendu dans une navette spatiale avec deux extraterrestres, mais en même temps, tu sais, la même vibe, c'est le même propos, là.
C'est ça qui est particulier, parce que dans le fond, si on le feuillette, puis je pense que l'erreur que les gens pourraient faire, c'est d'essayer de le prendre en librairie, le feuilleter tout simplement, on se dit « OK, c'est un recueil d'histoire ». Mais en même temps, si on le lit comme un recueil d'histoire plutôt que le lire en note suivi, j'ai l'impression qu'on perd un peu sur cet aspect d'agencement-là, sur l'ambiance qui en ressort, puis le sentiment général, au bout du compte, qui en ressort aussi entre les deux intimités que tu nous places en début puis en fin aussi de parcours. Parce que nécessairement, ben, ça devient quand même les axes les plus importants. Comment tu la commences, comment tu nous happes en trois, quatre histoires dans la variété dans laquelle tu vas nous placer. Puis après ça, comment tu wrap-up ça, mais avec quelque chose qui est organique aussi, que c'est pas genre, OK, je fais un wrap-up pour expliquer qu'est-ce que j'ai voulu faire sur une centaine de pages et 15 histoires.
Oui, ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est ben en même temps, bon, si les gens ne la catchent pas, que ça forme un tout, c'est pas très grave. Ça sera la deuxième, troisième. Mais je suis vraiment surpris. Je m'attendais vraiment à avoir plus de commentaires de gens qui ah ouais, bon, c'est des fonds de tiroir, quelque chose de même. T'sais. Puis non, au contraire, c'est l'accueil le plus chaleureux que j'ai eu depuis comme le moral des troupes, puis je l'ai
mais même... Faut dire que ça fait longtemps aussi, quand même. Hein? On est déjà au départ, on est content que tu reviennes avec un album. Évidemment, on a pu te suivre, puis ça reste aussi, puisque tu le mentionnes aussi à la fin, il y a quand même pas mal d'histoires qui étaient un peu ça et là. J'imagine que pour toi, parce que tu parlais aussi d'une volonté d'expérimentation, d'expérimenter avec les formats, avec les albums, avec les tonalités, donc d'aller travailler dans Trip, d'aller travailler dans Crémage, d'aller faire une publication dans une expo et le reste, ben, ça te force peut-être aussi ou ça te donne des opportunités d'aller explorer stylistiquement, graphiquement, thématiquement aussi, puis une belle liberté, j'imagine.
Oui, exactement. À peu près à chaque fois qu'on m'invite à faire une histoire courte puis on me donne un petit peu d'argent, je dis OK, mais je veux garder mes droits pour en faire un recueil, tu sais. Puis la plupart du temps, tu sais, après une période d'exclusivité de genre, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, selon ce sur quoi on s'entend. Parce que pour moi, ben, faire une histoire courte de bande dessinée qui est payée, mettons, 100$ ou rien, ou tu sais, ça vaut pas la peine. Mais si je la garde pour en faire un recueil, tu sais, là, ben, au moins, ça me motive avec un objectif un peu atteignable. Ça me donne un deadline avec un motif atteignable, tu sais. Parce que s'embarquer dans un OK, là, je vais faire mon magnum opus de 300 pages, puis ça va, tout le monde va trouver ça extraordinaire, puis c'est comme, je sais pas. Finalement, à mon âge, je ne sais pas si je suis fait pour ça. T'sais. Je ne sais pas si ce que je fais, c'est pas plus justement nourri par mon amour de la chanson, du format, disons, court et agglomérable, puis qui prend son sens dans l'agglomération. Je pense que c'est juste plus mon ton. Il faut maintenant que je l'assume. Ça ne veut pas dire que j'en ferai pas des magnum opus de 300 pages, mais ces petits objectifs courts-là, ça me va bien, puis le moment où on arrête de, tu sais, le moment où on arrête de parler est important aussi, tu sais. Je parle pas de notre entrevue.
Mais en fait, des histoires, je pense qu'on comprend bien, parce que, effectivement, si tu développes quelque chose que là, ça va, en fait, c'est variable, t'as une planche, t'as des deux planches, autant que t'as des 10-15 planches aussi, un peu plus long. J'imagine que plus le récit est court, plus il faut réussir à bien condenser aussi la situation comme telle, qu'elle soit rapidement compréhensible, qu'elle fasse l'effet clairement aussi. J'imagine que l'habitude rentre un peu à la longue aussi, à force de faire des récits courts, ben, veux pas, ça devient un peu plus un réflexe, ou ou ça reste quand même un défi de bien la commencer, bien la finir, bien la structurer comme telle?
C'est un gros défi parce que, tu sais, notre tendance, c'est bavarder. C'est notre tendance, c'est de se croire, de s'écouter, d'aimer le son de sa propre voix, même si on parle de dessin. Puis de juste comme chirer, puis tout ça. Puis de ramasser ça dans quelque chose de compact. C'est un peu comme, je rapproche ça un peu de la poésie, là. Tu sais, c'est comme tu chop. Là, OK, je peux-tu chopper ça? Ah oui, aussi, tu sais. Puis là, tu ramasses quelque chose de vraiment comme une brique de matière vibrante, là. Y a quelque chose de très grisant là-dedans. Puis bon, ben, il y a du monde comme Schultz là, qui fait Peanuts. C'est le meilleur synthétiseur de l'univers. En tout cas, je dis même, il n'est pas tout seul. Mais justement, des fois, en quatre cases, comme l'existence humaine est résumée en quatre cases de Charlie Brown. Puis c'est ça, je suis vraiment très admiratif de ça, même si j'aime aussi beaucoup les moments d'errance. C'est comme, je parle de l'efficacité et tout ça, comme si j'étais un hollywoodien ou très Pixar, mais pas du tout. J'adore Miyazaki, j'adore la rêverie, j'adore l'errance, mais justement de rendre ça qu'il y a des histoires un peu plus longues aussi, comme tu sais, la dernière qui fait 46 pages, 48 pages. Il y en a une autre de 36 pages où il y a plus de moments, justement, comme ça, des moments qu'en japonais, ils appellent ça le ma, là, les moments où il ne se passe rien, mais il se passe tout en même temps. C'est ça, j'aime beaucoup ça, mais c'est ça, c'est cette espèce de approche paradoxale-là entre il ne se passe rien, mais ça dit beaucoup. C'est pas mal mon ton. Je pense.
Oui, ben en fait, je pense qu'en fait, quand on creuse un peu dans les revues de presse de Jimmy Beaulieu, on tombe sur la notion de non-histoire un peu qui revient souvent, mais où il n'est pas obligé de se passer quelque chose pour qu'il se passe quelque chose non plus. C'est la contemplation, puis on va, exemple précis, dans le fond, il y a une histoire dans l'ouvrage, un chapitre, une section, appelons-la comme on veut. Dans le fond, c'est deux filles qui sont dans le lit, il y en a une des deux qui regarde vers l'extérieur, l'autre qui est couchée sur les cuisses de l'autre. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui est venu avant, mais évidemment, on peut avoir une certaine idée. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui va venir après non plus. Est-ce qu'il y en a une des deux qui dort ou pas? C'est variable aussi, mais dans le fond, celle qui regarde vers l'extérieur, monologue, essentiellement s'adresse à l'autre dans une errance un peu d'esprit, mais qui en vient à une anecdote qui est porteuse, qui en vient à une conclusion, qui en vient à un silence. Je veux dire, c'est dans le fond d'essayer de l'anatomie du moment comme tel, de savoir, bon, OK, s'il y a eu quelque chose d'important que c'est vécu là, de réussir à circonscrire pour qu'on en ait juste assez avant pour comprendre de qui on parle, puis juste assez après pour pouvoir l'absorber, pour pouvoir l'absorber, puis voir à travers le dessin peut-être un peu leur intériorité, parce qu'il y a des éléments que tu n'as pas besoin de dire, parce qu'on voit le visage, on voit l'émotion, on voit l'ambiance, à travers les couleurs, à travers la pose, à travers le côté un peu figé aussi de cette séquence-là. Mais je veux dire, c'est quand on parle d'un moment synthétisé, je pense que c'est un bon exemple aussi là-dessus.
Ben oui, mais ce que tu dis aussi sur l'intériorité, c'est super important pour moi parce que, tu sais, en littérature, il lève le nez un petit peu souvent sur la bande dessinée parce qu'on montre supposément au lieu de suggérer, tu sais. L'écrit suggère et le dessin montre selon cette conception-là. Tu sais, Flaubert, il disait, je voudrais certainement pas que quelqu'un illustre Madame Bovary parce que j'ai tout fait pour ne pas mettre d'image dedans. Fait tu sais, touchez pas à mon texte avec vos sales pattes, en gros. Moi, je trouve que la bande dessinée, elle suggère tout autant, mais dans l'intériorité, justement. C'est qu'on va mettre une case silencieuse avec la tête du personnage, puis on dit pas comme j'étais sidéré de penser que machin. Ça, c'est suggéré, tu sais. Fait que pour moi, c'est pas moins fort, tu sais. En tout cas, c'est au moins tout aussi fort de suggérer avec ces cases silencieuses-là l'intériorité des personnages que la suggestion des décors, tout ça, de la littérature.
Tout ramène, j'aimerais ça un rythme de lecture où des fois, il y en a qui vont avoir le réflexe de vouloir lire rapidement parce qu'ils ont l'impression que les choses se disent dans le texte. Uh-huh. Alors qu'il faut essayer aussi d'appréhender comme lecteur, j'ai l'impression, le rythme aussi de la scène, le beat de la scène. Puis dans celle-là, entre autres, on place des silences, on comprend que c'est un moment qui se vit lentement, puis on comprend que nous, comme lecteurs, bien, si on ne veut pas se couper du moment que tu nous proposes, bien, il faut suivre un peu cette ambiance-là, puis cet esprit-là pour le vivre avec tes personnages, dans le fond.
Ben encore là, bien, c'est proche de la poésie. C'est-à-dire que ce qui est, ce que je que je dis, ce que je veux dire, en tout cas, qui n'est pas si clair que ça, mais c'est ni dans le texte, ni dans l'image, c'est entre les deux, puis c'est dans la tête de la personne qui lit. Ça peut varier, quoique, c'est une variation quand même un peu dirigée, mais c'est ça, tu sais, c'est... Des fois, tu sais, je parlais comme avec une de mes élèves récemment, puis elle me montrait un dessin, puis là, je disais comme, ah, il y a telle chose dans le dessin, mais tu vois, en le disant, c'est vulgaire, alors que ton dessin, il est beau, il est pudique, pudique dans le sens, c'était pas un dessin pudique, mais il y a une politesse de pas dire les choses de manière trop frontale. Je pense que c'était un des pouvoirs du dessin et donc de la bande dessinée que de faire ça.
Oui, de suggérer puis de laisser après ça aller à l'imaginaire.
Ouais.
Puis en même temps, en dosant aussi, tu sais, cette séquence-là, elle marque une pause un peu, ouvre un peu vers aussi la thématique de laisser aller l'émotion, d'accepter l'émotivité, d'accepter la douleur d'une certaine façon, d'accepter que des fois ça va mal ou des fois il y a un mal qui est resté pogné puis qu'à un moment donné, il va sortir puis qu'on ne sait pas trop pourquoi c'est là, mais c'est là. Puis tu parlais de schéma récurrent, mais tu sais, je trouve que ça nous amène aussi même globalement dans l'esprit général de Jardin des complexes.
Ben exactement, mais c'est fou parce que cette histoire-là, je l'ai ajoutée à toute fin, tu sais, je l'avais chopée. Puis là, on s'en a l'impression. Puis là, j'ai envoyé ça à Renaud, j'ai dit « Ah, fuck, je pense qu'il faut la mettre. » Puis le dessin était complètement shit. Il a fallu que je la redessine au complet ou presque. Mais quand j'ai lu les thèmes, puis de quoi ça parle, tu sais, ça parle de quelqu'un que ça fait longtemps qu'il avait besoin de pleurer, tu sais, puis elle pleure dans ses rêves, puis c'est vraiment ça, c'est la retenue, la pudeur dans laquelle il y a dans tout le bouquin, puis la mélancolie, retenue. Justement, cette retenue-là, je ne vais pas faire tomber trop dans la psychanalyse, mais tu sais, la couverture, là, c'est deux personnes droites comme un i, mais qui finalement devraient être en train de se frencher, mais qui ne sont pas rendus là encore. T'sais. C'est vraiment ça par rapport à le besoin de pleurer aussi dans cette case-là. T'sais. Il y a un moment donné vers la fin où une de mes amies me parle de son fils et on se donne un câlin. C'est la première fois que, en 27 ans d'amitié, qu'on se donnait un câlin puis qu'on se consolait puis qu'on tombait dans ce registre intime-là. Donc, cette espèce de frontière-là entre les émotions puis la pudeur et en tout cas, c'est un gros, gros, gros sujet du bouquin qui a été, c'est ça, encore là, qui est très, très, très masqué, mais masqué dans ta face.
Oui, puis en fait, on comprend que ça reste, dans le fond, une ligne qui est complexe à gérer dans la vie, là, si on tombe un peu dans cet aspect-là, dans la mesure où à quel moment tu laisses tomber la pudeur, à quel moment, au contraire, si tu enlèves la pudeur, ben, c'est là que tu vas y perdre à un moment donné aussi. Je pense que ton personnage revient là-dessus aussi à un moment donné, parce qu'évidemment, dans les segments autobio, autofiction, ben, c'est ton avatar qui est là plutôt que d'être sous le couvert de des personnages fictifs à gauche ou à droite. Mais où il dit, tu sais, à la fois, à un moment donné, est-ce que c'est mes complexes, est-ce que c'est les autres complexes? J'aimerais ça que ce soit de la faute des autres ou des complexes des autres à un moment donné que les choses se passent pas, à la place que j'ai toujours, au bout du compte, l'impression que c'est à cause de mes complexes à moi, au bout du compte, mais en même temps, on ne le sait pas non plus. Donc, il y a quand même, je veux dire, on revient à une dimension très personnelle, puis à des enjeux, je pense, auxquels on fait tous écho, dans le fond, qui est l'idée de lire, de comprendre les moments, dans le fond, au bout du compte. Puis, j'imagine que le fait de les avoir au dessin, de les avoir visuellement, de les exprimer par un autre médium, surtout si on est dans l'autobio-autofiction, dans ce cas-ci, ben, ça permet peut-être d'avoir un éclairage aussi additionnel sur ce moment-là. Puis soit tu te sortiras un peu plus ou tu te dis « Ah, j'avais raison, c'était correct. » Ou...
Ben, ça prend ce côté-là, ça prend sa saveur avec le temps. Hein, tu sais, quand je refais avec mes vieux livres autobiographiques, à part être honteux par rapport au dessin puis les textes un peu maladroits, souvent je suis content de voir les décors, voir le présent, tu sais, quand je dessine du monde comme mes grands-parents, mes parents qui aujourd'hui sont morts, mais je les dessinais au présent, je les dessinais comme quand on allait prendre un café, des choses comme ça, tu sais, c'est, il n'y avait pas l'affect de deuil qu'il y aurait si je les dessinais aujourd'hui, tu sais, fait que ça, vraiment, c'est une des choses les plus belles et les plus importantes, je pense, de la démarche autobiographique avouée, je dirais. Là. C'est avec le temps, c'est 10 ans plus tard, j'ai fêté ça, puis tu sais, holy shit, mais oui, mon appartement était fait comme ça, j'avais oublié, ou tel restaurant, Nana Pizzeria, que tout le monde aurait oublié si j'avais pas fait comme une histoire dessus, tu sais, les deux personnes âgées grecques super fines qui nous servaient, tu sais, c'est bien d'avoir laissé une trace de ça au présent, tu sais. En tout cas, c'est C'est quelque chose que je trouvais savoir. Je ne sais pas si, à quel point ça répond à ta question.
Ouf, je ne sais pas à quel point c'est une question non plus, sincèrement. Ça reste flou. Mais si on parle d'éléments, ce que tu disais justement, dont tu amènes, puis tes parents, par exemple, bon, tu l'as dit, sont décédés, on le comprend aussi à la lecture de l'album. On évoque cette relation-là parce qu'à un moment donné, il y a une dimension aussi pour certains segments, mais du retour, surtout pour préparer la finale, dans le fond, où tu reviens vers l'île d'Orléans, où tu reviens vers l'enfance. Donc, il faut réintégrer les parents à l'intérieur de ça, il faut réintégrer le souvenir, l'impression qu'ils t'en ont laissé, l'impact qu'ils t'ont laissé sur ta perception relationnelle, sur les gens qui coupent, les gens qui réparent, dans le fond. Donc, c'est, je veux dire, ça, c'est des éléments aussi que tu livres à travers ça, évidemment, mais qui étaient nécessaires de livrer pour amener vers ta finale aussi.
Oui, ben c'est ça. Mes parents sont morts récemment, back-to-back, un après l'autre. Ben, enfin, ça, 3 ans d'intervalle. Je voulais pas faire un livre là-dessus, tu sais, un livre de deuil. Tu sais, je pense que 80% des scénarios de cinéma au Québec, ça commence par suite à la mort d'eux. Je voulais pas, mais je voulais quand même pas le passer sous silence non plus. Je voulais l'explorer. L'explorer. Je voulais juste, c'est ça que j'ai à dire en ce moment, tu sais. Puis c'est tout. Toutes mes relations intimes, amicales, tout ça sont nourries par cette opposition-là de la réparation et de la coupure, tu sais. Puis comme c'est ça, j'ai souffert d'avoir, c'est ça, en tout cas, très psychanalyse, là. Mais j'ai souffert d'avoir comme une mère très coupure, là, qui nous flochait à chaque fois que, tu sais, comme elle partait de son bord. Elle avait ses raisons, tout ça, de faire ça. C'est une hygiène de vie comme une autre, sauf que, ben, c'est ça, ça fait pas mal plus de douleur chez les autres que être dans la réparation, tu sais. C'est une autre approche, tu sais. C'est ça, j'ai jamais réussi à résoudre ça dans ma vie d'adulte, ce truc-là d'aller vers du monde qui voudrait autant être dans la réparation que moi, là, tu sais. Fait que c'est ça, en tout cas, c'est vrai que ça s'appelle Jardin des complexes parce que ma mère travaillait pour des jardins aussi. Donc, ça, c'est une grosse clé de lecture que je viens de donner à tes auditeurs. Oui, voilà, c'était important d'aborder ça, mais je voulais pas comme en faire le direct sujet du livre. Je voulais plus parler de c'est ça, cette distance-là que j'ai avec les émotions, avec les autres. Tout ça.
Oui, puis dans le fond, de l'explorer, puis de voir de quelle manière, ben, entre autres, ben, à travers les différentes méthodes qu'on a mentionnées, dans le fond, de voir un peu comment ça peut s'exprimer, de voir comment l'explorer. Puis dans certains cas, ben, j'imagine que l'autofiction s'imposait parce que tu avais besoin d'une anecdote précise. Donc, OK, on va aller là, on va creuser ça. Ou d'autres fois, ben dans le fond, on était un peu dans une fiction, mais qui était motivée par le réel. Je pense, tu parlais tantôt du 48 pages à la fin. Je le ressens comme un récit qui est à la fois autobiographique, à la fois fictif, où les deux se nourrissent un peu mutuellement. Mais la finale me semblait quand même très personnelle avec ce retour-là, justement, vers l'île, vers le wrap-up, dans le fond, que ça permet tout ça.
Ben oui, la dernière histoire, tout continue. Ça a vraiment commencé comme une fiction que je voulais improviser. Tu sais, j'étais en résidence. À Angoulême, à Bilbao, puis à Québec, donc l'an dernier. Puis je voulais juste faire une histoire improvisée qui restait poreuse à ce qu'elle allait se passer dans les trois villes. T'sais. Mais évidemment, la vie m'a ramassé complètement dans cette période-là. Puis ça a fini, très, très, très proche d'autobiographie. Parce que c'était trop, tu sais, je vivais le deuil de mon père pendant ce temps-là, je pouvais juste pas ne pas en parler, je pouvais pas, ça pouvait pas juste comme ne pas splutcher dans l'histoire. C'est ça, je suis resté ouvert à ça. Puis ça, je sais pas, ça, quand on se met dans, tu sais, c'est un peu, je sais pas, Cartier-Bresson, là, c'est un peu être à l'affût, tu sais. C'est un peu Cartier-Bresson, les gens connaissent, c'est comme un photographe qui a vraiment systématisé tout ce que les cinéastes de l'ONF ont fait aussi par la suite, c'est-à-dire rester à l'affût des belles choses qui peuvent se passer dans le réel, puis être prêt pour les capter, puis les capturer, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça que partent mes histoires. Après ça, je comprends de quoi ils parlent. tu sais, ce que je disais sur la couverture, puis du ton du livre, des thèmes du livre, c'est apparu pendant que je travaillais dessus, tu sais. On n'a pas des idées comme « je veux aborder tel thème, je vais transformer ça comme ça », c'est plutôt comme « ah, ce serait beau, ce serait intéressant, ce serait le fun, puis j'ai envie de dessiner ça ». Puis là, tu dessines ça, puis là, après ça, quand tu le fais, tu sais, des fois, j'ai comme des breakdowns, je me mets à pleurer en le faisant parce que je vois de quoi je parle, tu sais. Comédie sentimentale pornographique, un autre de mes livres, ça parlait de quand j'ai lâché ma maison d'édition, tu sais, j'ai lâché l'édition, c'était comme je renonçais à un idéal, tu sais, puis ben, quand je m'en suis rendu compte, j'ai comme eu un espèce de breakdown très, très émotif, mais dans ce cas-là, je m'en rends encore compte aujourd'hui de quoi je parlais dans « Jardin des complexes ». T'sais, ça reste un petit peu musical, ça reste abstrait. Musical est le bon mot, c'est vraiment un truc mélodieux. T'sais. Puis là, c'est comme tu vois que la musique fonctionne, puis après, tu y réfléchis, puis « ah bon, ok, ouais, d'accord, c'est ce noyau-là que j'attaquais ».
Oui, ça fait penser un peu, en fait, quand tu parles de musique, je fais toujours High Fidelity en tête, mais le classement émotif des tunes, au bout du compte, c'est que chaque histoire est attachée à un moment, à un instant. Chaque histoire, tu l'as racontée parce que il y avait quelque chose qui t'amenait puis que tu écoutais l'instinct pour t'amener vers. Donc, j'imagine que veux pas, tu as un rapport émotif avec un peu tout ce qu'il y a dans le jardin des complexes aussi, nécessairement.
Oui, c'est ça. Tu sais, je sais pas, tu fais un rêve, là, tu dis comme ah, tu sais, en anglais, ils disent comme it mattered. Tu sais, c'est comme il était important ce rêve-là. Tu sais. Fait que faut que je place ça dans ce que je raconte, dans mon discours. Tu sais. Fait que c'est ça. Puis après, après tu en fais une histoire, tu l'organises. Tu sais. Ça commence en tout cas dans mon cas d'une manière assez mystérieuse. Tu sais. J'imagine qu'il y a du monde qui dise comme OK, j'aborde ce thème, c'est mon sujet, puis qu'ils partent de ça, puis qu'ils développent. Puis, mais moi, je fonctionne plus de manière musicale, tu sais, de côté. Côté, c'est ça, mélodieux, tu comprends pas tout à fait, c'est vraiment très émotif, puis à un moment donné, la tête embarque, puis à, comme, à l'aide de cette vague-là, tu sais, c'est ça, c'est vraiment une oui. Vague-là, puis la tête est là pour l'organiser, pour la rendre communicative, tu sais.
En fait, on pourrait dire, il y a juste l'expression anglaise qui me vient, mais « art-driven storytelling ».
Voilà.
Donc, Et en même temps, c'est ces genres, puis je mentionne aussi, c'est quand les gens vont lire, tu rajoutes les fantaisies à la fin, à deux pages, où tu expliques un peu le contexte des histoires, mais au bout du compte, c'est sur le 48 pages, puis je trouve qu'il y a des éléments du wrap-up qui sont là aussi, ouais. Qui sont forts. Là, quand tu réfères au film Le Fleuve, puis à la citation « All we do is to go on », ben tu sais, au bout du compte, c'est tellement ça, le livre aussi, puis ouais. J'ai trouvé ça... Un peu intense, c'est de. Tu sais, je dis ça parce que je me suis déjà fait une entrevue, puis j'ai trouvé ça bon, je continue, je suis rendu là, puis c'est OK, tu sais, jusqu'à la dernière ligne des annexes, tu ouais. T'ajoutes, puis tu construis, dans le fond, sur l'esprit général de ton ensemble.
Oui, ben c'est ça, mais il y a toujours le côté méta, en tout cas, de ma propre autocritique, disons, et très, elle a toujours été présente, tu sais, je pense, même dans À la faveur de la nuit, je finis sur une petite section comme ça. À la fois rôle de composition et comédie sentimentale pornographique, j'ai fait des petits livres making of, tu sais. Fait que ça, c'est peut-être mon côté prof, c'est peut-être mon côté vraiment comme communication, tu sais, c'est peut-être ça qui drive ça, mais aussi je voulais, parce que ça reste assez abstrait, puis il y a des affaires que je me demande avec cette double page d'explication-là, si je ne suis pas allé comme des fois trop loin dans « OK, ça parlait de ça », tu sais, pour être sûr qu'on s'est bien compris, tu sais, mais je le regrette toujours pas, tu sais. Des fois, c'est comme « Est-ce que je prends le lecteur pour un cave? » Mais non, je pense pas, je pense, tu sais, comme l'histoire juste avant, tu sais, avec mon ami sur son toit, avait journée bleue, là, c'est ça. Je me souviens plus comment je l'ai appelé. C'est genre une apparition mai 2021. Voilà. Ben, c'est ça, celle-là. Je vois plus où je m'en
allais. Qui est beaucoup plus coloré d'ailleurs aussi, si je ne me trompe pas, là, plus presque aquarelle dans l'esprit général. Là.
Oui, c'est ça. Donc, celle-là, j'ai écrit, ben, elle aurait pu s'appeler le Madrid ou elle aurait pu s'appeler, comme en anglais, Meet Me Halfway. C'est comme, OK, là, j'insiste peut-être un petit peu trop sur, vous avez compris que le Madrid symbolise la mi-chemin entre deux personnes, Montréal et Québec, puis de se rencontrer là pour travailler sur les problèmes entre nous deux. C'est vraiment fucking important pour moi, puis c'est ça le propos de cette histoire-là, puis c'est ça la connexion entre moi puis mon ami que mm-hmm. Ça fait 30 ans qu'on a tour à tour un crush l'un sur l'autre, mais que c'est jamais rien passé ou presque. Puis la relation, comme justement entre mes parents, tout ça, en tout cas, c'est comme en 8 pages, je parle de quelque chose d'assez fondamental, mais en même temps, je ne le nomme pas. Puis à la fin, tu sais, dans ce truc-là, j'ai vraiment été tenté comme c'est important que ce soit le Madrid, c'est important qu'il y ait le côté réparation. C'est content, meet me halfway, genre la mi-chemin entre Québec et Montréal. Mais c'est ça, c'est peut-être un peu faible d'insister là-dessus, mais en même temps, je ne suis pas sûr que tant de monde que ça réfléchisse à ce point-là, à mes 8 pages. Là.
Oui, ben en fait, la question, c'est toujours aussi, tu sais, j'imagine, t'as différents types de lectorat. Tu sais, d'un côté, bon, le Madrid, ça reste une référence culturelle québécoise, donc le lecteur de France, par exemple, pas nécessairement d'idée claire de qu'est-ce que ça représente géographiquement. En parallèle, ben, j'imagine qu'il y a aussi une dynamique où il y a des gens qui te suivent depuis Résine de synthèse, depuis le début, ou qui t'ont attrapé en cours de route, puis qui renouent avec toi, avec cet album-là, autant qu'il y en a pour qui... Ça va être le premier contact avec Jimmy Beaulieu, puis le reste va venir un peu à rebours. Ils vont tomber dans le rôle de composition, ils vont tomber dans une aventure, ils vont tomber dans la comédie sentimentale, etc.
Oui, ben c'est ce que je me dis, j'espère. En tout cas, ben, de toute façon, le dernier est assez autonome, mais il est très, 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 très lié avec les autres aussi. T'sais. C'est vraiment la suite très directe de tous mes livres précédents. Si tu as lu une aventure, puis... Tu sais à quel point l'île d'Orléans, je reviens tout le temps, puis à quel point c'est important pour moi. Puis ça fait partie de mes rêves. Même, tu sais, j'ai donné une entrevue dans Lettre québécoise une fois, puis je disais que tout ce que je fais comme dessin, c'est pour recréer cet émerveillement-là que j'avais en regardant le fleuve puis les montagnes quand j'étais petit. Tu sais, donc, je décortique un peu ça. Fait tout ça participe du même discours. En fait, je travaille sur mon gros omnibus à la fin qui va paraître quand je vais être mort. Ça va être ça mon livre, tu sais, justement ce truc-là des fragments qui sont colligés après là. Donc ça va aussi dans le sens macro comme micro.
Oui, puis ça devient particulier parce qu'après ça permet d'un côté d'avoir une réflexion sur toi, sur ton expérience, mais nécessairement j'ai l'impression qu'on revient, on est beaucoup sur ton expérience, mais on n'est pas beaucoup sur toi. J'explique, dans la mesure où, pour moi, ton personnage, c'est toujours ton avatar, tout le monde, peu importe lequel, peu importe les histoires, c'est souvent le personnage le moins spectaculaire, au bout du compte, c'est celui dans lequel tu dis, ben, projetez-vous, il est assez neutre, il existe dans l'histoire, puis il est entouré de personnages charismatiques, extravagants ou inspirants ou autres, mais l'emphase n'est jamais sur ton avatar comme tel, je trouve.
Puis c'est pour ça que tu sais, je le dessine comme le plus neutre possible, sans lunettes, il n'y a pas tant que ça dans ma tête. C'est Tintin, c'est Charlie Brown, c'est même James Bond, tu sais, il n'y a aucun de ces personnages-là qui est un personnage, c'est vraiment un véhicule pour le lecteur ou la lectrice, tu sais, Hello Kitty, ou, tu sais, c'est tout deux points, une tête ronde un peu abstraite, fait que c'est un véhicule pour vivre les choses, tu sais. Fait que non, j'ai déjà été plus là. Mais là, c'est vraiment juste comme l'espèce de point neutre, un pivot autour duquel se passent les choses. Ouais, c'est un drôle équilibre, en effet. C'est drôle que tu le remarques comme ça, parce que c'est à la fois ben introspectif, justement psychologique, psychanalytique, puis aussi dans une pudeur au niveau des émotions. Tu sais, quand je parle justement d'un drame, quelque chose, un deuil, machin, c'est comme, c'est pudique, entité, de la manière que je le dis, là, c'est comme, je veux dire, la fille a dit au gars, tu hurlais, puis lui, il veut, ah oui, j'étais un océan de tristesse, mais je dessine pas comme un océan de tristesse ou quoi que ce soit, puis je fais pas le moment d'émotion, je fais ce qui va après, ce qui va avant, ça, puis je dis, ça fait longtemps que j'avais envie de pleurer, tu sais, que j'avais besoin de pleurer, pardon, une distinction importante, mais c'est ça, c'est toujours comme un décalage. Je pense que c'est parce que la personne qui nous lit aussi, elle en a des émotions, puis elle en a du bagage, puis c'est quelque chose de plein, c'est pas un réservoir pour moi, c'est pas quelque chose qu'on peut comme remplir puis gaver d'émotions, puis tu sais, justement, les films hollywoodiens ou tout ça, des fois, qui en mettent, c'est... C'est indigeste parce que, tu sais, on est des personnes pleines qui vont un vécu, tu sais, qui vont des histoires aussi.
Ça force une relation peut-être plus impliquée, j'ai l'impression, avec l'ouvrage, parce que nécessairement, ça devient confrontant aussi. Si tu dis, parce que là, même à travers ce que tu dis aussi, on comprend certaines rengaines, c'est les pleurs, la nécessité de, ben, tu sais, dans deux exemples qu'on a cités, au hasard sur les 15, c'est quelque chose qui revient aussi. C'est quelque chose qui existe, mais à travers ça, de savoir, puis on revient un peu à ce qu'on disait aussi au départ, savoir quoi, où commencer, où finir, savoir où placer l'ellipse, savoir quel élément on a besoin de montrer, quel élément on peut évoquer. Puis j'imagine que là-dessus, là, ça devient le travail aussi beaucoup de mise en scène, de création, et qu'à un moment donné, tu finis par comprendre que, OK, ton histoire dans sa forme X, ça fonctionne, mais qu'il a fallu pas mal d'itérations, ou des fois, ça vient spontanément sur la bonne forme pour avoir le bon impact, dans le fond.
Oui, exactement. Des fois, ça comme ça accouche tout seul, ça prend 2 heures, puis tu ne touches plus jamais. Puis d'autres fois, comme justement l'histoire qu'on a parlé le mai 2021, une apparition. Celle-là, eh boy, il y en a eu des itérations, il y en a eu des versions, il y en a eu, tu sais, ça m'a pris comme 3 ans à faire celle-là, sérieux, là, tu sais, j'y revenais une fois de temps en temps. Non, c'était pas correct, c'était comme, non. Puis à tout, tu sais, je dis que je l'ai fini en Gaspésie, mais c'est pas vrai, je l'ai fini à Montréal. Ça faisait beau de dire que je l'ai commencé puis fini en Gaspésie à 1 an d'intervalle, mais non, ça a commencé, j'y pensais nettement avant, puis ça a fini juste avant d'aller sous presse aussi. C'est comme, Renaud était là, ouais, vous l'envoyez, là. Puis là, j'étais encore en train de refaire des petits nez, puis des petites affaires, couper des bouts de texte, tu sais, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, ça a vraiment été une genèse beaucoup plus compliquée que, mettons, la deuxième histoire qui est sortie en, je te mens pas, probablement 1 heure, que j'ai à peu près jamais retouché. T'sais.
Est-ce que tu as l'impression que c'est un peu en lien avec l'impact émotif de ce que tu veux raconter? Ou même à ça, j'ai l'impression que des fois, ça doit sortir de source, même si c'est difficile à sortir comme émotion? C'est...
Ça peut-être par rapport avec mon besoin et ma méfiance de l'explication. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin d'expliquer les choses dans la vie. Je pense qu'on l'entend en m'entendant parler en entrevue notamment. J'ai un gros besoin d'expliquer. Puis en même temps, quand je relis mes trucs ou j'explique, j'ai honte, je trouve que c'est de la magie noire. Je trouve que, tu sais, non, le livre, ça ne sert pas à expliquer. La personne peut comprendre, est intelligente. Fait que, tu sais, c'est comme justement de doser ce truc-là que... J'ai besoin de dire les choses très clairement, très articulées, de trouver les bons mots, mais en même temps, je ne veux pas comme gaver, je ne veux pas en mettre trop, je ne veux pas expliquer, je ne veux pas prendre mon lecteur de haut non plus, je ne veux pas comme être condescendant avec la personne qui me lit, elle me lit, elle me fait de la place dans son salon, dans son lit, dans ses chiottes, je ne veux pas comme être condescendant avec, puis dire là, 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 les gens sont comme ça. Je l'ai assez fait quand j'ai commencé. Fait qu'essayer de doser ça, ça a été super dur avec cette histoire-là. Ce que je voulais, tu sais, je voulais dire, c'est ça, la mort de mes parents, réparation, la coupure, le fait que j'ai passé du temps avec eux autres, qu'on a bien fait ça, tu sais, mais c'est comme, c'est dit très, très précisément, mais sans gros affect. Je laisse vraiment le lecteur ou la lectrice ramasser la poque, prendre la poque puis aller vers l'émotion.
Oui, puis visuellement, en fait, elle se distingue aussi, en fait, stylistiquement, parce que c'est dans celle qu'on retrouve justement des petits icônes, des petits éléments, c'est celle où il y a le plus de couleurs. Elle ressort un peu, en fait, peut-être aussi de par l'effort de mise en scène, autant que peut-être de par le contexte puis les choix que tu as fait, mais elle ressort, puis on ressent comme une importance particulière quand on arrive à ce bout-là qui est travaillé de façon particulière. Et peut-être la séquence du party à Chicoutimi qui a autant de visuels, de couleurs, d'éléments de mise en scène. Mais il y en a quelques-unes comme ça qu'on sent que, OK, tu sais, on sort un peu de la bichromie, on sort un peu de, puis on est dans quelque chose qui a eu une résonance particulière au dessin, tout le moins.
Oui, c'est fou parce que j'ai fait un rêve où on se donnait, tu sais, un vrai, vrai câlin, moi, puis cette fille-là, en 1997, puis j'ai écrit ça, probablement en 2000, puis je l'ai dessiné, tu sais, on se donnait un bon câlin pendant le coucher de soleil, tu sais, puis là, on était sur son toit, c'était le coucher de soleil, on était complètement pompette, puis on s'est donné un vrai, vrai, vrai bon câlin, tu sais, puis c'est comme je dis, des fois, c'est un rêve, là, tu sais, c'est comme, ah, OK, c'est important, ça, tu sais, j'ai déjà rêvé à ça il y a 30 ans, je te l'ai écrit, là, aujourd'hui, ça arrive alors qu'on est dans notre fin quarantaine. Donc, c'est ça, c'est un moment important. Au début, c'est tout ce que je voulais raconter, en fait, mais finalement...
Évidemment, c'est ça. Tu veux expliquer, fait que t'ajoutes un peu, mais t'as besoin, pour qu'on comprenne la force du moment, on a besoin de savoir ça, qui amène à avoir besoin de savoir ça, etc., etc., puis après ça, il y a comme une construction d'obligation, si on peut dire, qui s'ajoute. Là,
c'est ça. C'était pas facile à doser, mais j'espère que j'y suis arrivé. J'espère que dans 5 ans, je vais le regarder et je vais pas dire « Oh mon Dieu, je suis allé même trop loin dans la clarté et dans l'explication. » Parce que mes histoires où je fais juste raconter des moments comme justement les deux premières ou celle à Chicoutimi dans un party, tu sais, c'est arrivé à peu près texto. C'est un mélange de deux parties, en fait. Ça, c'est vraiment des moments. Puis je trouve que dans tout ce que j'ai fait, c'est ce qui vieillit le mieux, tu sais. Quand je refais avec mes bouquins, quand je travaille sur des traductions, des choses comme ça, les moments où, tu sais, dans le moral des troupes, je me brosse les dents, puis je regarde ma femme dans le lit, puis je dis, ah, fuck, est-ce que je suis capable de me plaindre de choses dans la vie, tu sais, à quel point je suis chanceux, donc ça, tu vois, c'est des moments que j'assume encore, mais dès que je tombe dans l'explication, c'est ça, c'est plus épeurant. Fait que c'était plus dur à doser.
Oui, puis en fait, puis, quand tu parles de moments, il y a des moments fictifs, il y a des moments non fictifs, puis peut-être un autre exemple aussi pour... je pense que l'objectif que j'ai aussi, c'est que les gens comprennent la variété des ambiances, des éléments qui sont dans le jardin des complexes aussi. Entre autres, je pense à une séquence, c'est en deux filles, dans le fond, on comprend qu'ils ont des chicanes, ça ne va pas super bien dans leur couple. Puis on ne sait pas exactement, dans le fond, où le moment qu'on est en train de voir se situe dans l'histoire du couple. Puis je trouve que c'est la force de cette séquence-là, c'est est-ce que c'est le début de la fin? Est-ce que c'est un moment de réalisation? Est-ce que. Mais tu sais, la fille dit finalement à chaque fois que tu pognes les nerfs, tu sais, dans le fond, je t'aime un peu moins. Puis il y a eu un bruit au début, puis on comprend à la fin que c'est un pont qui est tombé. Tu sais, c'est comme. Il y a tellement de parts de mystère un peu dans ça, mais en même temps, il y a tellement. Tu sais, je veux dire, tu aurais pu expliquer plein d'affaires, mais d'un autre côté, il y a un plaisir aussi à justement essayer d'imaginer où on place un peu cette séquence-là. Comparativement à d'autres séquences, justement, comme on vient de parler, que là, on a besoin de la contextualiser, peut-être parce que ça se réfère à quelque chose qui nécessite cette précision-là, si on peut dire.
Oui, puis il y a une des deux filles qui est en dépression, qui reste dans l'appartement, dans le lit, en fait, toute la journée. Puis l'autre, elle sort, puis il y a des zombies dehors qui la culpabilisent, qui c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute. Fait que, tu sais, elle affronte encore le monde, puis il y en a une qui a renoncé à se confronter au monde. Fait que c'est quand même, ça dit beaucoup.
Oui, vraiment.
Ça dit beaucoup si on. C'est ça, si on se laisse. Si on trouve ça juste absurde, on trouve ça juste absurde, mais je pense que ça l'est pas. Je pense que ça m'est venu d'une manière un peu spontanée, puis que ça aurait pu durer 75 pages, tu sais. J'aurais pu comme développer. Mais c'est ça, tu sens que c'est un couple fatigué, tu sens que tu sais, le pont tombe, les gens dehors, c'est des zombies. Les deux, c'est comme, oh God, tu sais, ça va pas super bien, ni l'une ni l'autre, tu sais, sont un peu tannés de ça, puis même s'ils essayent de réparer, justement, ça ne fonctionnera probablement pas, tu sais.
C'est le moment où tu te rends compte que quelque chose est fini, dans le fond.
Ouais, c'est ça, le pont qui tombe, c'est peut-être la coupure, c'est une bonne affaire dans ce cas-là, tu sais. Mais c'est ça. Donc, tu vois, ça fait encore partie des thèmes du bouquin. Tu m'aides à comprendre mon livre aujourd'hui, c'est bon.
Mais j'ai l'impression que ça reste, puis on peut conclure un peu là-dessus, mais tu sais que ça reste un jeu de correspondance, puis un exercice. Je veux dire, tu lis Jardin des complexes, tu le suis pour l'esprit général, pour les histoires, pour les qualités narratives, mais après ça, comme lecteur, pour moi, il y a comme, tu sais, sachant en plus que. Puis c'est clairement expliqué dans ta conclusion qu'il y a son utilité aussi, dans le sens-là, de comprendre qu'il y a une réflexion, de comprendre qu'il y a des éléments qui sont là en écho, de nous faire prendre conscience que la seconde lecture, que la troisième lecture devient intéressante, puis qu'on va trouver justement des éléments de récurrence, qu'on va trouver des éléments, des clés de compréhension ou des clés de questionnement pour nous-mêmes. Puis pour moi, c'est ça un peu la richesse de la job de mise en place aussi qui ressort au-delà de la qualité de l'album lui-même, là.
Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en vieillissant, en prenant de l'expérience, j'ai de plus en plus d'estime pour la personne qui me lit. Tu sais, j'ai plus l'impression que j'écris à quelqu'un que j'aime, puis que j'estime, puis qui est une personne pleine. Tu sais, c'est comme l'altérité, c'est un des grands défis de la vie, savoir c'est quoi l'autre, là. C'est quoi la densité de l'autre? L'autre est autant de personnes que nous. Je pense que je suis un peu meilleur là-dedans à mon âge qu'au début. Puis il y a plus d'écoute dans mes pages aussi, il y a plus d'écoute de l'autre. Je pensais que ça allait en faire un livre plus bizarre puis plus étrange, mais c'est ça, il est bien accueilli. Puis aussi, ben, il est quand même plein de légèreté puis de déconne aussi.
C'est important de le signaler aussi, effectivement.
Oui, c'est ça. Parce que depuis tantôt, on parle des aspects vraiment comme deep, fragile, tout ça, mais... il y a vraiment un côté un peu cave aussi. C'est juste le titre, Jardin des complexes, qui est en. C'est le complexe des jardins. Hein. En tout cas, c'est vraiment un jeu de mots stupide qui est dans le titre, qui, à première vue, est super poétique. À deuxième vue, c'est comme une grosse joke niaiseuse. Puis en troisième vue, c'est une joke niaiseuse psychanalytique parce que ça fonctionne. C'est ma mère était gérante de banque chez Desjardins. Fait que, tu sais, donc, il y a un peu de tout ça dans le bouquin. Puis c'est ça, il y a un peu tout ça dans notre existence.
Et c'est ce qu'on peut découvrir. En fait, je rappelle le titre, Jardin des complexes. C'est de Jimmy Beaulieu, c'est ta nouvelle adresse. Jimmy, merci beaucoup pour cet heure passée avec nous.
Ça fait plaisir, Raymond. Merci, merci d'avoir aussi lu mon livre avec autant d'attention.
Merci, je le relirai aussi, évidemment, à la faveur de l'entretien. Alors, Jimmy, merci beaucoup. Et bien, auditeurs, auditrices, merci également à vous d'avoir été avec nous. C'était Raymond Poirier au micro et on vous souhaite une excellente semaine.